Qu'est-ce que c'est, au juste, la foi ? Dans notre civilisation, beaucoup diraient que la foi, finalement, c'est quelque chose d'insaisissable. Si vous me passez l'expression, c'est comme un truc qu'on a ou qu'on n'a pas, une sorte de sentiment mystique. Souvent, on entend dire que la foi n'a pas vraiment de rapport avec le réel. Elle est plutôt une projection de l'esprit, qui peut être respectable, même bénéfique, mais qui n'est pas ancré dans la réalité. Si ça peut te faire du bien de croire, c'est très bien. On entend parfois ce genre de choses. Mais le chapitre 11 de la lettre aux Hébreux, un texte bien connu, un texte clé dans la Bible sur le thème de la foi, nous révèle une toute autre conception. Et ce matin, entre deux séries, c'est ce texte qui retiendra notre attention. Alors, il y a quelques années, sauf erreur de ma part, nous avons vu ensemble quelques extraits de ce chapitre, mais ce matin, je vous propose une vision plus globale de ce texte. Et je vais le lire, non pas en entier, mais plusieurs extraits, je pense du chapitre, donc du verset 1 jusqu'au verset 26, et puis ensuite je lirai simplement les versets 39 et 40. Hébreux 11, verset 1. Or, la foi, c'est la réalité de ce qu'on espère, l'attestation de choses qu'on ne voit pas. C'est par elle que les anciens ont reçu un bon témoignage. Par la foi, nous comprenons que les mondes ont été formés par une parole de Dieu, de sorte que ce qu'on voit ne provient pas de ce qui est manifeste. C'est par la foi qu'Abel offrit à Dieu un sacrifice de plus grande valeur que celui de Caïn. Par elle, il lui fut rendu le témoignage qu'il était juste, Dieu lui-même rendant témoignage à ses offrandes. Par elle, quoique mort, il parle encore. C'est par la foi qu'Enoch fut transporté, de sorte qu'il ne vit pas la mort. On ne le trouva plus, parce que Dieu l'avait transporté. En effet, avant d'être transporté, il avait reçu le témoignage qu'il plaisait à Dieu. Or, sans la foi, il est impossible de lui plaire. Car celui qui s'approche de Dieu doit croire que celui-ci est et qu'il récompense ceux qui le recherchent. C'est par la foi que Noé, divinement averti de ce qu'on ne voyait pas encore et animé par sa piété, bâtit une arche pour le salut de sa maison. C'est par elle qu'il condamna le monde et devint héritier de la justice qui répond à la foi. C'est par la foi qu'Abraham obéit à un appel en partant vers un lieu qu'il allait recevoir en héritage. Il partit sans savoir où il allait. C'est par la foi qu'il vint s'exiler sur la terre promise comme dans un pays étranger, habitant sous des tentes avec Isaac et Jacob, héritier avec lui de la même promesse, car il attendait la cité qui a de solides fondations, celle dont Dieu est l'architecte et le constructeur. C'est par la foi aussi que Sarah elle-même, malgré sa stérilité et son âge avancé, fut rendue capable d'avoir une descendance, parce qu'elle tint pour digne de confiance celui qui avait fait la promesse. C'est pourquoi d'un seul homme et d'un homme déjà atteint par la mort sont nés des descendants aussi nombreux que les étoiles du ciel et que le sable qui est au bord de la mer, qu'on ne peut compter. C'est selon la foi que tous ceux-là sont morts, sans avoir obtenu les choses promises. Cependant, ils les ont vus et salués de loin, en reconnaissant publiquement qu'ils étaient étrangers et résidents temporaires sur la terre. En effet, ceux qui parlent ainsi montrent clairement qu'ils cherchent une patrie. S'ils avaient eu la nostalgie de celle qu'ils avaient quittée, ils auraient eu le temps d'y retourner. Mais en fait, ils aspirent à une patrie supérieure, c'est-à-dire céleste. C'est pourquoi Dieu n'a pas honte d'être appelé leur Dieu, car il leur a préparé une cité. Je continue au verset 24. C'est par la foi que, devenu grand, Moïse renonça à être appelé fils de la fille du Pharaon, préférant être maltraité avec le peuple de Dieu que d'avoir la jouissance éphémère du péché. Il tenait en effet l'humiliation du Christ pour une richesse plus grande que les trésors de l'Égypte, car il regardait plus loin, vers la récompense. C'est par la foi qu'il quitta l'Égypte sans craindre la fureur du roi, car il tint ferme comme quelqu'un qui voit celui qui est invisible. C'est par la foi qu'il fit la Pâque et l'aspersion du sang pour que le destructeur ne touche pas au premier-né des Israélites. C'est par la foi qu'ils traversèrent la mer Rouge comme une terre sèche, tandis que les Égyptiens qui tentèrent d'en faire autant furent engloutis. Je continue verset 35. Des femmes retrouvèrent leur mort par une résurrection, mais d'autres furent torturées et n'acceptèrent pas de rédemption, afin d'accéder à une résurrection supérieure. D'autres subirent l'épreuve des moqueries et du fouet, ainsi que les liens et la prison. Ils furent lapidés, sciés, tués par l'épée. Ils menèrent une vie errante, vêtus de peau de mouton et de peau de chèvre, manquant de tout, opprimés, maltraités, eux dont le monde n'était pas digne, errant dans les déserts, les montagnes, les cavernes et les antres de la terre. Et tous ceux-là, qui avaient reçu par leur foi un bon témoignage, n'ont pas obtenu ce qui avait été promis. Dieu, en effet, avait en vue quelque chose de supérieur pour nous, afin qu'ils ne soient pas portés à leur accomplissement sans nous. L'auteur de cette lettre est anonyme. Il est probable qu'il ait fait partie de l'entourage de l'apôtre Paul, on en a quelques indices. Ce qui est sûr, en revanche, c'est qu'il écrit à des chrétiens d'origine juive, dont certains semblaient tentés de laisser tomber la foi chrétienne et de revenir au judaïsme traditionnel. Ce chapitre 11, bien connu, suit naturellement dans la foulée du chapitre 10, logique. Si on jette un coup d'œil au verset 39, donc tout à la fin du chapitre 10, on voit que l'auteur encourage ses lecteurs et il leur dit qu'ils ne sont pas, eux, de ceux qui abandonnent la foi, mais au contraire qu'ils ont une foi qui tient ferme et qui les conduit au salut. Et on peut se poser alors la question, mais quelle est cette foi qui permet de tenir ferme? Et c'est à cette question que l'auteur répond au chapitre 11. Pour nous aussi, même si notre contexte est très différent de celui des premiers lecteurs de cette lettre, ce texte, avec ce qu'il nous dit de la nature et des enjeux de la foi, est très précieux. Et on va l'examiner en trois temps. D'abord, la foi, c'est la réalité d'une relation avec Dieu. La réalité d'une relation avec Dieu. Puis la foi, c'est un bouleversement des valeurs. Et enfin, la foi, c'est l'espérance concrète d'un avenir magnifique. Donc d'abord, la foi, ou la réalité d'une relation avec Dieu. L'auteur nous propose au verset 1 une sorte de définition de la foi. La foi, c'est la réalité de ce qu'on espère, l'attestation de choses qu'on ne voit pas, traduit de façon légèrement différente selon les versions. Mais le sens est là. Que veut dire l'auteur par ces mots? La première chose qu'il faut relever, c'est qu'il insiste sur la dimension objective de la foi. Avoir la foi, ce n'est pas simplement croire. Tout court. On nous dit parfois, l'important c'est de croire. La limite, peu importe en quoi on croit, c'est le fait de croire, ça nous transporte au-delà de nous-mêmes, etc. On entend dans notre culture ce genre de choses. Ici, l'auteur nous dit qu'il ne s'agit pas simplement de croire, tout le monde croit en plein de choses, mais il s'agit de croire en quelque chose, ou en l'occurrence, quelqu'un qui existe objectivement, en dehors de nous-mêmes. Dire qu'on croit en Dieu n'a pas de sens si Dieu n'existe pas. Certains, bien sûr, pensent qu'effectivement la foi relève du domaine de l'illusion et que Dieu n'existe pas. Mais pour l'auteur de cette lettre, c'est tout le contraire. La foi, c'est l'attestation de choses qu'on ne voit pas. L'auteur fait ici le lien entre ce qu'on voit, donc l'univers, le monde autour de nous, et ce qu'on ne voit pas, mais qui existe pourtant. S'il dit ce qu'on ne voit pas, il ne parle pas de choses inexistantes, mais de choses qui existent de manière invisible. En l'occurrence Dieu et son œuvre de création. Et donc la foi pour l'auteur aux Hébreux n'est pas du tout sans rapport avec le réel, mais au contraire elle l'interprète et elle explique le réel. La foi ne s'arrête pas à ce qui est visible, elle discerne aussi une réalité invisible. Tout le monde croit en des choses invisibles, tout le monde. Même le plus athée des athées. Par exemple, l'amour éprouvé par des parents pour leurs enfants. On en a eu un exemple ce matin. Réalité invisible. Alors on dira qu'elle s'exprime visiblement, effectivement, par des gestes affectueux, par des engagements. Mais la réalité de cet amour, elle est invisible. On pourrait imaginer un film où des acteurs font les mêmes gestes et la réalité n'est pas là. C'est une réalité invisible. Un exemple plus net, la conscience du bien et du mal. Aller dans la rue et poignarder quelqu'un, c'est mal. Je connais personne qui conteste cela. Pourtant, cette réalité du caractère mauvais d'un acte, elle est totalement invisible. Le geste en lui-même, c'est le mouvement d'un bras armé d'un objet qui a un effet sur le corps d'un autre. Si tout se résume à ce qu'on peut observer de ses yeux, il n'y a pas de jugement de valeur à prononcer. Ça, c'est la réalité visible. Mais dès lors qu'on interprète cette réalité en disant « c'est mal », On affirme qu'il y a une dimension invisible de l'existence qui ne se réduit pas à ce qu'on peut observer. Donc il faut arrêter de dire qu'on ne doit croire que ce qu'on voit, parce que personne, absolument personne ne croit que ce qu'il voit. Par contre, beaucoup de gens, tout en croyant en fait à une réalité invisible, refusent, et je le dis respectueusement, refusent d'expliquer cette réalité, refusent d'en discerner le sens ultime et l'origine. Or, la Bible affirme que la réalité invisible et la réalité visible ne sont pas dues au hasard, mais sont dues à celui qui est à l'origine de tout le réel. Mais le point essentiel, c'est que ce Créateur, il est personnel. Il nous invite à le connaître. C'est le miracle de l'Évangile. Et on voit ça dans tous les exemples de l'Ancien Testament qui nous sont donnés dans ce texte. Il y a à la fois la perspective de quelque chose qui est invisible, mais il y a aussi la réalité d'une relation objective et présente avec Dieu. Alors il y a beaucoup d'exemples dans le texte, j'en relèverai deux. D'abord Noé au verset 7. Le texte nous dit qu'il a été divinement averti de ce qu'on ne voyait pas encore. Donc dans son cas, la foi, ce n'était pas quelque chose d'irréel, ce n'était pas quelque chose d'immatériel, mais au contraire, il a cru en quelque chose de très concret, mais qui n'était pas encore visible. La venue du déluge et d'un nouveau départ donné par Dieu à l'humanité, après un jugement. Puis il y a Abraham, au verset 8. Le texte nous dit qu'il a obéi à un appel. Et effectivement, c'est ce que nous dit le livre de la Genèse qui nous relate cet épisode. Le texte nous rappelle ensuite qu'Abraham a reçu de Dieu des promesses. Et c'est au nom de cet appel et au nom de ces promesses qu'il a vécu par la foi, en quittant son pays pour rejoindre une terre inconnue. Et on voit à nouveau que la foi est indissociable de la relation avec Dieu. Abraham n'est pas parti comme ça sur une lubie, mais il est parti parce que Dieu l'a invité à vivre une relation avec lui. Alors, certains se disent peut-être en entendant cela, très bien, mais moi je n'ai jamais entendu de voix venant de Dieu, j'ai jamais bénéficié de révélations directes comme Abraham ou comme Noé. Alors comment est-ce que ce texte peut s'appliquer à moi? Je reviendrai sur ce point en conclusion et je pense que nous verrons que Dieu nous parle encore aujourd'hui de manière différente. Mais on a vu que pour l'auteur aux Hébreux, la foi ce n'est pas la non-réalité comme certains voudraient le faire croire. Ce n'est même pas une réalité purement abstraite, mais au contraire c'est une compréhension de la réalité par laquelle on discerne que le réel ne se résume pas à ce qu'on peut voir de nos yeux, mais qu'il y a une dimension invisible de l'existence, et que cette dimension invisible, elle ne prend son sens que dans le cadre d'une relation vivante et authentique avec le Créateur. C'est lui qui est l'agent principal de la foi. Sans lui, la foi n'a aucun sens. Alors bien sûr que la foi nous implique totalement, mais elle repose sur l'œuvre objective de Dieu et sur l'initiative qu'il a prise de venir à notre rencontre. Et je crois que c'est en ce sens que l'auteur nous dit que la foi, c'est l'attestation des choses qu'on ne voit pas, l'assurance des choses qu'on ne voit pas. Je crois que l'auteur a voulu dire par là que c'est Dieu lui-même qui atteste la réalité invisible. C'est en connaissant Dieu qu'on pourra comprendre ce qui est invisible. Et Dieu nous l'attestera, il confirmera dans notre cœur cette réalité alors même que nous ne la voyons pas de nos yeux. Or, le fait de découvrir une dimension invisible de la vie dans le cadre d'une relation avec Dieu, ça implique un bouleversement des valeurs. Et c'est mon deuxième point. La foi, un bouleversement des valeurs. L'un des points communs des hommes et femmes donnés en exemple dans ce texte, c'est qu'ils ont renoncé à ce qui avait un attrait apparent au nom d'une espérance en quelque chose qui n'est pas encore visible. Or, nos valeurs, ce sont justement les choses auxquelles nous accordons le plus d'importance. C'est ce qu'on estime le plus qui nous mobilise le plus. Pensez aux choses qui vous mobilisent le plus dans la vie, ce sont des choses auxquelles vous accordez beaucoup de valeur. Comme le disait Jésus, là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. Pour beaucoup de nos contemporains, et souvent pour nous, ce sont des choses observables qui sont les plus importantes. Y compris des choses louables. Et belle, la famille, par exemple. Pour certains, la carrière, le parcours professionnel, ou les loisirs, ou bien l'argent. Mais si on est convaincu que l'essentiel de la vie se trouve dans une réalité invisible qui relève de Dieu, alors nous accorderons la priorité à ce qui est invisible. Quitte, s'il le faut, à renoncer à certaines choses visibles qui semblent désirables. Au verset 9, on voit qu'Abraham a préféré partir en exil et vivre sous des tentes parce que, verset 10, il attendait la cité qui a de solides fondations, celle dont Dieu est l'architecte et le constructeur. Il a été prêt à vivre en nomade parce qu'il attendait, au contraire, une cité qui a de solides fondations. Au verset 24 et 25, on voit que Moïse, qui avait été adopté par la famille du Pharaon, a préféré, là encore, vivre en nomade avec le peuple israélite, au nom des promesses adressées par Dieu à ce peuple, et au nom de l'appel que Dieu lui a lancé. De manière frappante, l'auteur nous dit que Moïse tenait l'humiliation du Christ pour une richesse plus grande que les trésors de l'Égypte. Pourquoi est-ce que brusquement l'auteur nous parle du Christ, alors que Moïse a vécu plus de 1000 ans avant Jésus ? On y reviendra en conclusion. Mais on voit ici que Moïse a estimé que la vie à laquelle Dieu l'appelait était infiniment plus précieuse que la vie de richesse visible qui lui était proposée en Égypte. À la fin du texte, l'auteur passe à des croyants plus anonymes qui ont dû vivre des vies de souffrance et même mourir pour leur foi. Et on sent une émotion en crescendo lorsque l'auteur les décrit à partir du verset 36. D'autres subirent l'épreuve des moqueries et du fouet, ainsi que les liens et la prison. Ils furent lapidés, sciés, tués par l'épée. Ils menèrent une vie errante, vêtue de peau de mouton et de peau de chèvre, manquant de tout, opprimés, maltraités, eux dont le monde n'était pas digne, errant dans les déserts, les montagnes, les cavernes et les antres de la terre. Quel regard poser sur de telles vies ? Si les valeurs du monde présent, ce sont les valeurs les plus hautes pour nous, c'est un échec total. Une vie de souffrance qui se conclut par une mort violente. On ne peut pas imaginer pire. Fiasco total. Une telle vie n'a de sens que si elle est portée par l'assurance d'une autre réalité, plus importante que celle qu'on peut voir de ses yeux. C'est vrai, la foi implique des renoncements, souvent. Mais il ne s'agit pas de renoncer parce qu'on considère le renoncement comme une fin en soi. Mais au contraire, il s'agit de renoncer à quelque chose de passager pour saisir ce qui est permanent et infiniment plus précieux. Vivre pour Dieu, ce n'est pas vivre au nom d'une illusion, comme beaucoup le pensent. Au contraire, vivre pour Dieu, c'est renoncer à l'illusion de son absence. C'est rechercher celui qui est à l'origine même de tout le réel. La vie chrétienne implique des renoncements, on l'a dit. Il est probable que personne ici n'ait été emprisonné ou torturé pour sa foi, sait-on jamais. Mais si vous avez reconnu en Jésus-Christ votre bien suprême, ça implique certains choix, à contre-courant de notre société. Il s'agit notamment de renoncer à certaines idoles de notre temps, des choses dont le monde nous dit qu'on ne peut pas s'en passer et qui définissent notre vie. Ça peut être la sécurité financière, considérée comme une idole, ce qui fait qu'on réussit sa vie ou non, la réussite sociale, ou encore le libre-échange sexuel pratiqué par notre civilisation. Et ces renoncements ne sont pas faciles, et ils peuvent impliquer d'être incompris, caricaturés, moqués, voire rejetés. Mais la Bible ne voit jamais, encore une fois, dans la souffrance, une fin en soi. Il s'agit au contraire de rechercher le plus grand bonheur. Réussir sa vie dans la Bible, c'est connaître Dieu, et c'est trouver ainsi le sens profond et essentiel de sa vie. Et lorsqu'on voit les choses ainsi, toutes ces choses qui font notre quotidien, la famille, le travail, l'argent, les loisirs, et parfois les moins bonnes choses qui font notre quotidien, eh bien toutes ces choses, alors là je parle plutôt des bonnes choses, ne sont plus des fins en soi, mais plutôt des opportunités d'approfondir notre relation avec Dieu. Que ce soit dans des circonstances de succès, entre guillemets, ou dans des circonstances plus difficiles. Comment est-ce que ma famille peut me conduire à approfondir ma relation avec Dieu ? Comment est-ce que mon travail peut me conduire à approfondir ma relation avec Dieu ? Comment est-ce que mon argent peut me conduire à approfondir ma relation avec Dieu, ou plutôt ce que je fais de cet argent ? Maintenant, il y a un autre élément qui ressort fortement dans ce texte et qu'il ne faudrait pas oublier, c'est la notion d'espérance. C'est-à-dire l'orientation de notre vie vers une réalité future qu'on attend et qu'on prépare dès aujourd'hui. Et ce sera mon dernier point. La foi, c'est l'espérance concrète d'un avenir magnifique. Vous aurez remarqué que dans tout ce chapitre, la foi est vécue de façon active et en mouvement. Noé se met en mouvement pour construire l'arche. Abraham quitte son pays pour aller vers le pays promis. Moïse quitte l'Égypte pour aller dans le désert du Sinaï avec le peuple hébreu. Les Israélites font le tour de la muraille de Jéricho, etc. Il y a vraiment un mouvement qu'on voit dans tout ce texte. Ce qui nous rappelle que selon la Bible, la foi, ce n'est pas une contemplation, comme on peut là encore le penser. Je ne dis pas qu'il n'y a pas la place pour de la contemplation dans la vie chrétienne, sans doute que si. Mais avant tout, la foi, c'est une aventure, c'est une quête vers un objectif bien précis. L'auteur l'a décrit au chapitre 12 comme une course. Une course vers quoi? Vers qui? Bien avant tout, c'est vers Dieu que ces illustres croyants couraient. C'est lui qu'ils cherchaient. Ils répondaient à l'appel de celui qu'ils avaient reconnu comme leur Seigneur et comme le Créateur de toutes choses. Mais l'auteur nous montre qu'ils avaient aussi l'espérance d'un monde fondé sur l'éternité de Dieu, par contraste avec notre monde qui est en proie au dépérissement, à ce qui est passager. Ce dépérissement a été introduit dans notre monde lorsque l'homme a choisi de faire sans Dieu, de se détourner de lui. Mais Dieu, et on le voit dans toute la Bible, c'est le fil conducteur de la Bible, Dieu n'a cessé d'appeler l'homme à revenir à lui. Et il promet, à de multiples reprises dans la Bible, il promet l'avènement d'un monde nouveau où son autorité sera pleinement établie. Un monde fondé sur son éternité, un monde permanent. Et c'est ce monde nouveau que l'auteur aux Hébreux évoque à plusieurs reprises ici. Au verset 10, il nous dit qu'Abraham, bien plus que le pays de Canaan qui lui avait été promis dans l'immédiat, il cherchait une cité qui a de solides fondations, celle dont Dieu est l'architecte et le constructeur. La véritable terre promise. Au verset 16, en parlant de tous les personnages cités jusque-là, l'auteur écrit qu'ils aspirent à une patrie supérieure, c'est-à-dire céleste. Et plus loin dans cette même lettre, il parlera d'un royaume inébranlable qui est à venir. Alors, on pourrait se demander, est-il bien raisonnable de rechercher une cité que nous ne voyons pas de nos yeux, là encore? N'est-ce pas une fuite? N'est-ce pas l'opium du peuple qui fait que, finalement, nous passons à côté de ce que nous serions appelés à vivre ici et maintenant? Tout cela nous ramène au discernement, par la foi, d'un Créateur qui est éternel et qui a créé l'univers. Si Dieu est Dieu, ce qu'il fait s'inscrit dans l'éternité. Et il tient ses promesses. Lui qui est à l'origine de toute chose a promis qu'il anéantirait la mort pour toujours, Ésaïe 25:8, qu'il créerait un nouveau ciel et une nouvelle terre, Ésaïe 65:17. Et donc la clé, c'est de savoir si nous croyons en ce Dieu-là, le Dieu de la Bible, le Dieu éternel qui fait les choses éternellement. Et c'est là que je reviens, en guise de conclusion, à une question qu'on s'est posée un peu plus tôt. Si la foi, c'est la réponse à un appel lancé par Dieu, comment est-ce que je peux entendre cet appel aujourd'hui? Et je crois que la réponse nous est donnée en fait au début du chapitre 12 qui sert de conclusion à ce texte. Chapitre 12, verset 1. « Nous donc aussi, puisque nous sommes entourés d'une si grande nuée de témoins, rejetons tout fardeau et le péché qui nous enlace si facilement et courons avec persévérance l'épreuve qui nous est proposée. » Un peu plus loin, « les yeux fixés sur Jésus, qui est le pionnier de la foi et qui la porte à son accomplissement. » Les croyants de l'Ancien Testament ne savaient pas qui était Jésus de Nazareth. Mais ils étaient persuadés que Dieu allait intervenir de manière décisive pour se réconcilier avec les hommes. Ils savaient que Dieu était déterminé à renouveler toute chose, à fonder un monde nouveau. Or, au verset 39, l'auteur nous dit que ces croyants n'ont pas obtenu, par quoi il faut comprendre, pas encore obtenu, ce qui avait été promis. Parce que le jour J, dans l'histoire de l'intervention de Dieu, n'était pas encore arrivé. Sa venue en chair et en os dans la personne de son fils Jésus pour nous réconcilier avec lui. Mais nous, par contre, nous avons le privilège d'être nés après ce jour J. Et par conséquent, nous n'avons pas besoin d'attendre un appel spécifique, va dans tel pays, construis une arche, etc. Parce que notre appel, il figure ici, chapitre 12, verset 2, fixez les yeux sur Jésus. C'est à ça que Dieu nous appelle. Il est, lui, le pionnier de la foi, celui qui est allé avant nous, qui a tracé le chemin de la foi pour nous, et celui qui la porte à son accomplissement, celui qui fait, si on veut, que notre foi vaut la peine et qu'elle aboutit véritablement à la réalité. Jésus est celui qui nous ramène à Dieu. Il est celui qui permet que la foi de Noé, Abraham, Sarah, Moïse, etc., cette foi-là n'a pas été en vain. Ils entreront bel et bien dans la cité permanente. Mais Jésus est aussi celui qui nous appelle à rejoindre ces anciens croyants pour participer, nous aussi, à cette nouvelle réalité que Dieu tient en réserve pour nous. C'est Jésus qui nous emmènera à cette destination. C'est lui qui nous fera entrer dans la Jérusalem céleste, dans la cité permanente. Et donc la question décisive pour chacun d'entre nous, c'est de savoir si nous ferons confiance à Jésus. Il s'est révélé, il a fait en sorte par l'intermédiaire des apôtres et de leurs écrits que toutes les générations suivantes puissent entendre son appel. Si quelqu'un veut venir à ma suite, qu'il se renie lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. Car quiconque voudra sauver sa vie la perdra, mais quiconque perdra sa vie à cause de moi la trouvera. Matthieu 16, 25. Il me semble que lorsque Jésus parle ici de perdre sa vie pour lui, il ne parle pas en premier lieu d'une mort en martyr, même si cela peut bien sûr arriver. Il parle plutôt d'un abandon du contrôle de sa vie. Non pas pour tout perdre, mais pour tout gagner. Et c'est un chemin qui n'est pas facile tant que nous sommes encore dans cette cité passagère. Ce chemin nous conduit à revenir encore et encore devant Dieu dans la prière parce que nous avons tellement besoin de lui à chaque instant. Laissés à nous-mêmes, nous avons tellement tendance à nous égarer. Il nous conduit donc à revenir à Dieu dans la prière en lui demandant de nous aider à lui abandonner ces choses auxquelles nous nous agrippons encore, mais qui en fait nous éloignent de lui. Notre respectabilité, notre image de marque, nos possessions, tout ce en quoi nous avons tendance à fonder notre valeur personnelle. Dieu nous appelle à nous libérer de cette pression, pour cette pression de justifier par nous-mêmes notre existence. Il nous invite à tout miser sur celui qui seul peut justifier, à justifier notre existence. Et donc, interrogeons-nous. Est-ce qu'il y a des choses dans notre vie qui nous empêchent de tout donner à Dieu ? Est-ce que nous portons des poids qui nous empêchent de tout remettre entre ses mains, qui nous empêchent de bien courir cette course de la foi ? Prions pour que Dieu nous éclaire, si tel est le cas. Amen.